Soif d'autre chose.
Soif d'autre chose.
L'émission jeune de Radio Présence.
Et bonsoir à tous, bonsoir à vous sur le plateau, salut Rachel.
Salut Léopold.
Et ce soir on se retrouve pour une toute nouvelle émission de Soif d'autre chose, une émission de Radio Présence par les jeunes de la paroisse étudiants de Toulouse. Et on co-anime avec Tancred, salut Tancred.
Salut.
On va parler de l'unité des chrétiens et du pape, le pape qui garante cette unité dans l'église. Et puis bah voilà, c'est parti.
Bonjour à tous, bonjour Amaury et bonjour Colombe. Amaury, tu es responsable liturgie à la paroisse étudiante. Et Colombe, tu es ancienne journaliste à Vatican News, tu es mariée, tu as un petit garçon et tu as fait ta formation au Vatican et également une alternance à KTO TV. Merci à tous les deux d'être là.
Merci pour l'invitation.
Eh bien, avec plaisir. Je pense que pour commencer un peu cette émission, on peut vous demander assez rapidement comment en fait le pape est garant d'une unité de manière générale. Comment est-ce que vous répondriez à ces questions? Comment est-ce que vous voyez la chose? Peu importe, Colombe, est-ce que tu veux commencer?
Ouais, pour commencer, moi j'aurais parlé du conclave, où je trouve que ça a été une très belle expérience et un très bel exemple de l'unité dans l'Église, puisqu'on a eu des cardinaux qui étaient vraiment du monde entier, et puis ce qui était assez exceptionnel, puisque les autres années, les autres fois, en fait, il y avait beaucoup d'Italiens, et là, le pape François avait nommé vraiment des gens de continents ou d'endroits où il n'y avait pas eu de cardinaux avant. Et donc, je trouve qu'on a bien vu que malgré ces différences, malgré ces cardinaux qui avaient des vécus différents et des problématiques différentes dans leur selon là où ils venaient, ils ont réussi à se mettre d'accord et à faire unité autour d'un nom. Et je trouve que c'est un bel exemple d'unité parce qu'ils nous ont bien dit, les cardinaux qui ont répondu aux interviews après, ont vachement parlé de l'expérience de l'Esprit-Saint et de comment ils avaient demandé à l'Esprit-Saint de les inspirer. Et donc, je trouve que c'est un bel exemple pour l'Église, dire qu'on est tous différents. Et effectivement, il faut se laisser inspirer par l'Esprit-Saint. Et puis voilà, on est le lendemain de la Pentecôte. Et donc, je trouve ça beau de se dire que pour faire unité, il faut faire comme les cardinaux et demander à l'Esprit-Saint de descendre sur nous.
C'est vrai. Non, mais c'est vrai que ce que tu viens de dire là, ça me fait penser. C'est vrai que dans le monde, en fait, il y a tellement de cultures différentes, tellement de manières de vivre. Et même si on a tous cette foi, tous les catholiques sont unis par leur foi, en fait, c'est pas forcément facile d'être unis quand on est si différents. Et peut-être on pourrait se demander comment est-ce que le pape, justement, il peut unir toutes ces différentes cultures, par quels moyens est-ce qu'il peut passer pour unir tout ça?
Le pape, il est avant tout le garant de la foi, et c'est ce qui est le fondement entre un chrétien d'Asie, un chrétien d'Afrique, c'est qu'on a beau avoir des liturgies un peu différentes, avec des spécificités propres à chaque région, on a le même fondement, une même foi, on croit en même Dieu trinitaire, et ainsi sur tous les points, et c'est ça qui nous rassemble, au-delà des océans et au-delà des frontières.
Je dirais que unité ne veut pas dire uniformité.
Oui.
Et que effectivement, ce qui compte, c'est qu'on proclame la même foi. Là, on vient de fêter l'anniversaire du Concile de Nicée, c'est le moment où on a écrit le credo, en fait. Et donc, oui, je trouve ça beau de se dire que malgré les générations différentes, malgré les âges différents, les époques différentes, les pays différents, les continents différents, et bien en fait, ce qui nous unit, c'est pas la manière de prier, parce qu'on a tous notre manière de prier, il y a des liturgies différentes, etc. Mais c'est qu'on proclame le même Christ ressuscité, inspiré par l'Esprit-Saint.
Non, c'est vrai que c'est beau.
Mais donc on parle vachement de cette unité, et pourquoi est-ce qu'elle est autant importante, en fait, cette unité dans l'Église et dans le monde?
Je pense qu'on peut répondre par une lettre de Saint Paul. Saint Paul nous dit, on est par notre baptême, on est unis au Christ, et l'Église étant le corps du Christ, on est naturellement unis à l'Église, et donc on doit, par notre vie, participer à cette unité, et le pape n'en est que notre assistant sur Terre, celui qui nous assiste dans cette recherche.
Et est-ce que le pape, il vient pas un peu chapeauter le rôle d'assistant que peuvent avoir les évêques, les prêtres, et comment est-ce que ce rôle-là, les rôles que les prêtres et les évêques ont, se différencient de celui du pape dans cette question de l'unité des chrétiens?
Moi, je pense que le pape, il a un rôle un peu d'exemple et d'inspiration, et je trouve que c'est par ce qu'il va dire et par les gestes qu'il va poser qu'il va montrer ce souci d'unité. Et notamment, je trouve que le pape, en tout cas le pape François, ou même Jean-Paul II, ils avaient des grandes amitiés avec les patriarches orthodoxes, par exemple. Et puis, c'était un vrai signe de... En fait, on n'est pas pareil, mais on est amis et on se parle. Et c'est ça l'unité, en fait, c'est d'être en dialogue. C'est pas d'être les mêmes et de croire exactement la même chose, mais c'est de poser ces gestes d'amitié. Et donc, je trouve qu'effectivement, le pape, il n'est pas là sur le terrain, dans les diocèses, à essayer de... Je trouve que les évêques, surtout en France, ils doivent un peu faire cohabiter parfois des croyants qui sont de différentes sensibilités, qui ont différents besoins, différentes communautés, etc. Et c'est pas forcément évident. Mais du coup, eux, ils vont être vraiment dans le concret, de se dire comment on accueille les traditionalistes, comment on accueille ces gens plus charismatiques, etc. Et puis le pape, ça va être moins concret, peut-être moins sur le terrain, mais ça va être l'inspiration qui va faire que sur le terrain, ça va rejaillir.
C'est génial ce que tu dis là. Bon, tu parles du coup de... Bah, on s'en rend bien compte en France et dans nos cultures notamment plus occidentales, cette sorte de... Moi, j'ai pas envie de dire rupture du coup parce qu'on parle d'unité, mais c'est ces grosses différences entre traditionnalisme et communauté plus charismatique et renouveau charismatique, ou même pour le dire de manière plus politique, je peux dire ça comme ça, conservateur progressiste, et comment on gère ces différences là et surtout j'ai l'impression que c'est quelque chose de vraiment très occidental, très européen, américain aussi, mais enfin peut-être, je suis pas sûr, mais j'ai aussi l'impression que le pape, le nouveau pape Léon XIV, il bouscule un peu tout ça. Moi, je me suis amusé à regarder quand il a été élu les commentaires de post Insta qui parlaient de lui, et puis les questions c'était est-ce qu'il est progressiste, est-ce qu'il est conservateur ou pas, nanana. Et en fait les gens, la moitié disait il est conservateur, l'autre moitié disait il est progressiste, et voilà, comment on gère toutes ces différences là qui sont en fait un peu tristes. Enfin, moi je me dis il y a des choses très bonnes dans ce qu'on appellerait entre guillemets conservateur et d'autres très bonnes dans ce qu'on appellerait progressiste. Donc comment on fait le lien?
Quand on discute avec les tradis en particulier, ils ont 1000 choses à reprocher au pape, et parfois c'est un peu frustrant, mais il y a toujours une chose qu'ils gardent au cœur, c'est l'unité avec l'Église. Est-ce qu'on peut regarder ça par exemple avec la Fraternité Saint-Pierre, qui est très traditionnaliste? Elle a toujours eu ce désir profond d'être en unité avec le pape, d'avoir un dialogue, et le pape est là pour ça. Et chaque pape qui se succède apporte à chaque fois sa vision. On avait par exemple Benoît XVI qui a été très ouvert sur la liturgie tridentine, un pape François qui a un peu resserré les vis, mais le but final du pape, c'est toujours de garder l'unité, et c'est de garder l'unité en récupérant le maximum de brebis. On doit tous être conduits à la sainteté, et ça peut être par des modalités différentes, par des liturgies différentes, mais il garde toujours au cœur cette unité dans l'Église.
Ce que je trouve important, et c'était dans les premiers mots de ce qu'a dit Léon XIV après son élection, c'est que chacun a sa place dans l'Église. Et je trouve ça important que chacun se sente accueilli malgré ses différences. Et on parle beaucoup de cette... et effectivement, c'est peut-être très occidental, où on a tendance à vouloir mettre des étiquettes et vouloir dire lui il est conservateur, lui il est progressiste, alors que dans l'Église, ça ne se passe pas forcément comme ça. On est toujours un peu entre les deux. Mais oui, il faut que chacun se sente accueilli. Et puis, je pense que les traditionnalistes, ils ont été blessés par différentes décisions, notamment de François. Et j'espère que Léon XIV, il va un peu panser les plaies et puis réussir à ce que chacun sente qu'il est à sa place, et puis que Et malgré les... Voilà, que c'est une richesse d'avoir des différences.
Et on parle de cette unité au sein de l'Église catholique entre les différents mouvements, mais est-ce qu'on ne peut pas chercher une unité au-delà de l'Église catholique entre les différentes branches du christianisme? Et est-ce que le pape, il peut pas avoir un rôle ben justement pour promouvoir cette unité-là entre les chrétiens?
Pour revenir
En tout
à...
cas, moi, je le vois beaucoup en Suisse, où il y a, pardon, où il y a beaucoup d'échanges entre les paroisses protestantes, notamment réformées, et l'Église catholique. Et je trouve que c'est à la fois un défi et à la fois ça se vit simplement parce que on voit qu'on croit dans le même Christ. Et puis, pour revenir à la question qu'on posait un peu au début de l'émission, il y a quand même un défi un peu de crédibilité dans un monde qui est de moins en moins croyant. Et ben, si les croyants on s'unit pas pour faire des choses ensemble et pour parler du Christ, en fait on loupe un peu le coche quoi. Donc il faut unir les forces. Et puis je trouve que notamment au niveau politique aussi, on a des sujets qu'il faut apporter sur le devant de la scène, comme l'écologie, comme la défense de la vie. Et puis on se retrouve bien avec les autres, avec les protestants, avec les autres confessions chrétiennes qui croient la même chose. Et donc voilà, il faut faire unité aussi pour faire avancer ces choses-là qui vont dans le sens de notre foi commune.
Merci beaucoup. On va faire une petite pause avec l'interlude musicale. Alors on va écouter, on change un peu de mood. On écoutait toujours de la louange sur les dernières émissions. Là c'est de la variété française. On va écouter Pierre Bachelet, L'homme en blanc. Je vous laisse deviner de qui il parle. C'est dans le thème.
Il embrasse la terre, à genoux sur le sol comme on fait sa prière. Et même les officiels ne savent plus quoi faire avec leurs vieux discours, leur tenue militaire. Il arrive, il descend, il est là l'homme en blanc. Il embrasse les enfants que la foule lui tend. Dieu, que la terre est rouge quand on le voit si blanc, comme un bateau qui bouge sur la marée des gens. Et les mots qu'il prononce dans les haut-parleurs sont des coups de semonce qui leur vont droit au cœur. Il arrive, il descend, il est là l'homme en blanc. Devant chaque visage, il s'arrête un instant. Et les grands des écoles chantent pour l'homme en blanc. Ces vieux chants espagnols où s'engouffre le vent. Plexiglas à l'épreuve des balles ne le sépare pas des foules qui dévalent. Il arrive, il descend, il est là l'homme en blanc. Son parcours est rempli par des millions de gens. Dieu, que la place est noire quand on le voit si blanc. Comme une vague d'espoir où s'accrochent les gens.
C'était L'homme en blanc de Pierre Bachelet. Bon bah, je vous ai dit devine de qui il s'agit, j'imagine que vous avez trouvé, c'était évidemment le pape. Puis on recommence.
Juste avant la petite interlude musicale, on parlait un peu de voilà le pape et un peu de ce côté politique qu'il peut avoir. Est-ce que on peut dire que le pape peut avoir un rôle de médiateur dans des conflits internationaux ou pas? Enfin, est-ce que ça peut être son rôle ou alors ça l'est pas et voilà.
On vient d'entendre une musique sur Jean-Paul II en particulier et du coup, enfin c'est le meilleur exemple de cette médiation. Surtout dans son durant son pontificat lors avec l'URSS, il a aidé à mettre fin au communisme dans cette partie de l'Europe et de l'Asie, et surtout il l'a fait de manière pacifique. Il a réussi à faire lever dans les peuples cet élan pacifique et cet élan vers le Christ aussi. Donc bel exemple de médiation. Et l'autre exemple auquel on peut penser, c'était durant les funérailles du pape François. Donc c'était pas, c'est un peu indirect de la part du pape François, mais on a eu cette magnifique image entre Donald Trump et Zelensky, oui, sur deux chaises au milieu de Saint-Pierre de Rome, qui était une très belle image d'unité, mm-hmm, surtout dans un conflit aussi violent que celui en Ukraine.
C'est vrai que cette image, elle m'avait interpellée aussi. Et c'est vrai que on peut, enfin, est-ce que le pape, voilà, il parle aux chrétiens, mais beaucoup de non-chrétiens sont touchés par les discours du pape ou pas? Enfin, c'est vrai que je me rends pas trop compte de à quel point le pape parle, enfin à quel point il parle au monde entier, ou est-ce qu'il parle plus aux chrétiens, quoi.
Moi, je me rappelle juste de, du coup, je parlais tout à l'heure des commentaires des posts Insta à l'élection du pape, et je me rappelle quand même, il y avait beaucoup de gens qui parlaient quand Léon XIV, quand il a fait son premier discours, il a beaucoup parlé de la paix. Mm-hmm. Vraiment, c'était ça son mot d'instruction, la paix soit avec vous. Ça annonçait la couleur. Et puis en fait, je pense qu'il y a quand même pas mal de monde qui ont regardé du coup son introduction un peu au monde à travers le balcon et son premier discours. Et oui, il parlait de la paix,
ouais,
à fond. Donc je pense que ça parle quand même aux gens. Colombe, tu voulais ajouter quelque chose?
Oui, je trouve que ce qui était impressionnant de cette période des funérailles du pape et jusqu'au conclave, c'était que énormément de médias se sont emparés du sujet et on en entendait parler partout, à la télé, à la radio et dans les journaux, au point que parfois on se disait, mais il y a tellement les catholiques pratiquants sont aujourd'hui minoritaires en France et on en parle de manière majoritaire dans les médias. Oui. Et donc il y avait vraiment ce petit décalage. Et je pense que, effectivement, déjà, c'est un monde qui fascine un peu. Et donc, les gens, quand il se passe un truc, ils regardent. Et puis, en plus, ouais, il faut se rendre compte que derrière le pape, on s'imagine l'État du Vatican qui fait, je sais pas, quelques kilomètres carrés. Mais c'est aussi 1 milliard de catholiques à travers le monde. Et donc, c'est quand même un monde assez conséquent, en fait. Donc, si le pape prend une direction ou un autre, on sait que dans le monde, il y a 1 milliard qui suit. C'est ça qui est beau dans l'unité aussi. Oui. C'est que derrière, il y a 1 milliard de personnes qui le suivent. Donc, je pense que... Et puis, au niveau des chefs d'État, effectivement, les chefs d'État suivent ce qui se passe au Vatican parce que ça compte. Dans leur pays, ils ont des catholiques. Et donc, évidemment, qu'ils ont les yeux peut-être pas rivés sur ce qui se passe au Vatican, mais en tout cas, ils y sont attentifs.
Mais du coup, est-ce que ça veut dire que le pape, il a un rôle politique? Est-ce que c'est un chef politique, quoi, en plus d'être un chef religieux?
Il est chef d'État, déjà. Donc, c'est déjà le Vatican est un État reconnu. Donc, voilà. Et donc, je pense qu'effectivement, il a un double rôle, tout en se disant que, oui, Jésus, dans l'Évangile, il a séparé ce qui est temporel et spirituel. Et du coup, il faut veiller à trouver le bon équilibre entre... Pour moi, le rôle du pape, c'est aussi de dire comment on actualise l'évangile, comment on le vit concrètement aujourd'hui dans nos pays, dans nos communautés, etc. Et donc, il y a une dimension presque politique. Si on dit que la politique, c'est ça vient de police, la cité, quoi, vivre ensemble. Et donc, évidemment que notre foi, elle va nous influencer dans la manière de vivre ensemble. Et en même temps, rester dans le champ spirituel, dans le sens où son rôle, c'est aussi d'être le représentant de Jésus, enfin le vicaire du Christ. Et donc d'avant tout proclamer la bonne nouvelle.
Et
Je sais pas
alors,
si j'ai bien compris.
si si,
oui,
non,
si,
c'était
c'est.
vraiment super.
Et donc, bon, bah voilà, donc le pape, du coup, il a aussi un rôle, comme on vient de dire, il a, bon, bah les deux, hein, c'est un chef religieux, mais il a aussi un rôle politique. Et donc, il donne plein de paroles, il parle souvent quand même, le pape. C'est quelqu'un qui parle, il a une bouche. Et
Oui.
est-ce qu'on a déjà vu, enfin, est-ce que vous avez déjà vu ou expérimenté des divisions qui ont disparu ou qui ont pu être apaisées suite à une parole du pape?
Ben moi, je trouve que la chute de l'URSS, c'était quand même un très bon exemple donné par Amaury.
Oui.
Bravo, Marie.
Effectivement, il y avait une division dans le monde qui était énorme, et en consacrant la Russie au cœur immaculé de Marie, l'URSS a chuté quelques années plus tard. Donc, en fait, je dirais pas que c'est le pape qui fait unité, il faut pas oublier que c'est le Christ qui fait unité.
Oui.
Et donc, en faisant prier les... Moi, ce qui m'a touchée aussi à l'élection de Léon XIV, j'étais place Saint-Pierre, donc déjà, c'était très émouvant.
Ah,
Et
waouh.
en plus, c'est qu'il a dit, il nous a fait prier ensemble, et puis il s'est un peu mis au niveau de, bah, moi aussi, je suis un fidèle comme vous qui m'adresse à Dieu, et on va tous ensemble s'adresser à Dieu. Et donc, je pense que, effectivement, le pape, il a sûrement ses réseaux, les nonces, donc ses ambassadeurs dans plein de pays qui savent plein de choses sur ce qui se passe, et puis qui font sûrement des. Voilà, des choses en sous-main pour que, y ait des personnes qui se parlent, les personnes qu'il faut au bon moment. Mais je pense que ce qui compte le plus, c'est la prière du peuple catholique et chrétien, pour l'unité et pour la fin de la guerre et la paix dans le monde. Et donc oui, ça c'est le rôle du pape de nous inviter à prier pour ça.
Comment est-ce que les jeunes, notamment étudiants, ils ressentent cette unité du Christ à travers le pape au sein de l'Église?
On aura
Moi,
mis
je pense
Nicole.
qu'il y a des événements. Quand on est étudiant, on participe à des pèlerinages, au JMJ, à des choses. Et puis, en tout cas, moi, c'est vraiment là que j'ai fait des expériences de l'universalité de l'Église. De me dire, ah bah lui, il est coréen. Et puis, il dit, je
Ouais.
crois en Dieu tous les dimanches comme moi. C'est quand même fou.
Ouais.
Et du coup, voilà, de se dire, mais il est différent. Et en même temps, il est.
Ça,
Moi,
c'était
je trouve
vrai.
que c'est ces événements-là qui m'ont fait ressentir l'universalité dans l'unité.
Ça, c'était vraiment une expérience de zinzin au JMJ à Lisbonne. Donc moi, c'était le premier JMJ. Et je pense la plupart pour nous
Oui.
tous, quasiment sur le plateau aussi. Et c'était, c'est con parce que l'une des plus belles messes que j'ai vécues, c'était une toute petite maison, une petite chapelle, c'était même pas la grand-messe à 2 millions. Mais en fait, ouais, on était avec quelques gens du village qui nous accueillaient et c'était génial. Et en fait, bah, c'était pendant notre père, et bah, moi je dis dans ma tête en français parce que bah, je parle pas portugais. Mais en fait, on était tous à prier notre père quand même. Et c'était mais exceptionnel, moi je sais pas, ça c'est con mais ça m'avait marqué énormément quoi. Il y avait vraiment cette unité là de ouais, même à travers la barrière de la langue, etc. Voilà.
Oui.
C'est pour rebondir à ce que tu disais, Colombe.
Ouais, tu m'as donné un coup de vieux parce que moi, mes premières JMJ, c'était en Pologne, à
Ah,
Cracovie.
je suis désolé.
Mais non.
On arrive bientôt à la fin de l'émission. Voilà, on n'y est pas encore, mais est-ce que, voilà, c'est quelque chose d'un peu plus personnel peut-être. Est-ce qu'il y a une parole du pape, voilà, quelque chose qu'il a fait ou dit, qui vous a touché dans votre vie, dans votre cœur, et qui vous a justement, voilà, rappelé que le pape pouvait être garant de l'unité. Voilà, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui vous a touché et que vous voudriez partager avec nous ce soir?
Moi, je pense à l'homélie pendant la messe de clôture du conclave, donc la première messe célébrée par le pape en tant que pape. Il avait dit « Nombreux sont les contextes où la foi chrétienne est considérée comme absurde, réservée aux personnes faibles, peu intelligentes. » Et en fait, et après, il explique que on se détourne de la foi dans divers plaisirs annexes. Et en fait, c'était centré vraiment pour les Occidentaux. Et j'avais écouté ça en direct et je disais waouh, en fait c'est il me parle à moi et en fait il vient nous soutenir aussi parce que parfois dans le monde séculier on a l'impression de d'être seul seul chrétien ou d'être en décalage et il y a le pape qui vient nous dire vous inquiétez pas, on est là, on vous soutient, on sait pourquoi ce que vous vivez et on sait ce que vous expérimentez, mais vous inquiétez pas, le Christ est là. Et c'est la suite de son Méhi où il nous dit ayez confiance dans l'Église. L'Église sera toujours là et elle mène au salut, et c'est le principal.
Wow, amen. Super beau.
Sur ces belles paroles.
Et toi, Colombe, est-ce que t'as, enfin, là, tu veux nous partager quelque chose aussi ou...
C'était une très belle homélie, moi aussi, ça m'avait touchée. Mais ouais, le moment fort, c'était quand même l'élection du pape où on était place Saint-Pierre. Il y avait des gens d'Amérique latine à côté de moi, il y avait des gens un peu du monde entier. Et donc, quand on a vu le pape arriver sur le balcon, on s'est dit, et mon mari m'a dit, il a ressenti la même chose, de oh, mais en fait, on l'aime déjà. Et c'est quand même trop bizarre de se dire cet homme, moi je le connaissais pas, hein.
C'est pas tellement vrai, favori,
donc, j'avais même pas compris son nom, j'étais là mais en fait je sais que les cardinaux ont choisi le bon et je sais que là nous tous place Saint-Pierre et dans le monde entier tous ceux qui suivent en direct on vit la même joie de se dire ça y est on a quelqu'un pour nous guider dans la foi. Et puis oui, ce qu'il a dit, j'ai trouvé ça très beau, qu'il parle de paix comme tu l'as rappelé et qu'il... Parce qu'on pourrait se dire, mais la paix, évidemment, dans le contexte de la guerre en Ukraine, de la guerre au Proche-Orient, effectivement, il y a beaucoup de conflits armés en ce moment, c'est le moment de parler de la paix. Mais en fait, c'était beaucoup plus... Pour moi, la paix, c'est la paix dans le monde, mais c'est aussi la paix dans nos familles, dans nos communautés, entre les tradis, entre les charismatiques, et puis surtout la paix dans mon cœur. Moi, tous les jours, je vis le même combat spirituel parce que tous les jours, je fais les mêmes péchés. Et du coup, que je trouve cette paix et que le Christ vienne me donner sa paix, j'ai trouvé ça génial qu'il parle de ça. Et effectivement, ça sonnait hyper juste. Donc oui, ça, c'était un moment fort.
Merci beaucoup pour toutes vos réponses. Voilà, on arrive à la fin de cette émission et on va écouter la chronique de Louise.
Sanctus. La chronique de Louise.
Pour parler du pape aujourd'hui, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Et comme j'avais déjà fait Saint-Jean-Paul II, je me suis dit pourquoi pas repartir avec l'histoire de Saint-Pierre. Et c'est vrai que sa vie, on a quelques indices par les évangiles. Et on connaît souvent assez peu le premier pape. Donc dans les évangiles, on sait un peu sur sa vie, qui commence en s'appelant Simon, en étant pêcheur sur les bords du lac de Tibériade, avec son frère André. Et étant donné que Jésus guérit sa belle-mère, on peut penser qu'il a eu une famille, il aurait été marié. Et il sera appelé par Jésus pour devenir pêcheur d'hommes, et à ce moment-là, il quittera sa famille pour devenir apôtre. Et il est là aussi à des moments clés un peu de la vie de Jésus, comme la transfiguration, mais aussi la passion du Christ, sa résurrection. Et quand il va rentrer dans le tombeau. Et par exemple, dans l'évangile de Matthieu, où il va être choisi par le Christ pour être à la tête de l'Église. Quand Jésus lui pose la question de qui il est et que Pierre lui répond « Tu es le Christ, le Seigneur », le Christ lui dira « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église ». Et aussi, alors que le Christ est ressuscité et qu'il lui pose cette question « Pierre, m'aimes-tu ?» et que celui-ci n'arrive pas à répondre à tout cet amour du Christ, le Christ le choisit à nouveau pour être le gardien de son Église. Et on sait un peu sur la suite de Pierre après la Pentecôte, qui va faire un grand travail pour unifier l'Église, et spécialement pour accueillir les non-juifs, pour les inclure dans les communautés chrétiennes. Et il va bâtir des communautés au Moyen-Orient en voyageant en Syrie et à Antioche, et il finira sa vie à Rome, où selon la tradition, il serait le premier évêque de Rome, et il finira crucifié la tête en bas sous les persécutions de l'empereur Néron, parce qu'il ne se sentait pas digne de mourir comme le Christ. Et ce que j'aime bien dans Pierre, c'est un peu le disciple. On a un peu le plus d'infos dessus dans les évangiles. Et je trouve qu'il nous représente bien comme humain. Je trouve qu'il est un peu attachant. Et ses réponses sont un peu maladroites, décalées. Il est un peu dépassé par la situation. Mais à chaque fois, le Christ va le choisir pour être à la tête de son Église dans l'unité. Et moi, ça m'a rappelé que malgré tout ce qu'on peut faire aussi de travers, eh ben, le Christ nous choisit à chaque fois pour faire partie de son Église. Et je crois qu'une fois, j'avais vu ça sur l'exo, mais je trouvais que c'était très vrai. En fait, quasiment tous les apôtres sont morts en martyrs pour la foi. Et je trouve que c'est ce qui donne aussi envie de croire, dans le sens où si ça n'avait pas été une histoire vraie et tellement incroyable, ils ne seraient pas allés jusqu'au bout. Mais là, c'était tellement incroyable ce qu'ils avaient vécu, qu'ils pouvaient aller jusqu'à mourir pour. Et c'est vrai que c'est très beau et ça donne envie de croire aussi.
Merci, merci encore, Louise, pour cette super chronique de cette semaine. Merci. Ah, ok. Ok. Merci Louise pour cette super chronique encore une fois ce soir. Merci beaucoup à Amaury et à Colombe d'avoir été avec nous également et pour toutes vos réponses et vos partages sur le pape et voilà, et de la manière dont il est garant de l'unité dans l'Église et dans le monde. Vous pouvez retrouver cet épisode sur le site de Radio Présence ainsi que sur toutes les plateformes de podcast. Et on vous dit à la semaine prochaine pour parler de l'engagement dans l'Église et de quel sens a l'engagement. À la semaine prochaine.